Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Tamar Bat Sarada, Zichrona Livracha. La question de Simon.
Hier, on a parlé pendant le shiur de la vision qu'avait le monde non religieux sur le monde religieux. Et moi, j'aimerais savoir comment on peut faire comprendre aux gens qui ne sont pas dans la Torah l'impact de l'étude de la Torah, pourquoi ça protège Israël et en quoi le fait d'étudier sur des livres toute la journée, ça a vraiment un impact dans le monde.
Bon, il faut qu'il y ait un minimum de croyance. S'il ne croit pas en Dieu, le type, c'est très plus dur d'expliquer cela. S'il ne croit pas en Dieu, tu le fais voir le cours La preuve irréfutable. Plus le cours Guermamia, normalement, c'est irréfutable, comme son nom l'indique. Ça, c'est en premier. Après que Dieu existe et qu'on a reçu la Torah de sa part, quel est le but de l'étude de Torah? Pourquoi c'est une mitzvah qui est tellement grande, équivalente aux 613 mitzvot réunies, à un point tel que le Hafez Chaim fait le compte qu'en une minute, on peut dire 200 mots de Torah. Chaque mot de Torah vaut 613. Il faut faire donc 200 fois 613, ça fait combien? 120 000 et quelques. Si c'est difficile, comme ici à la Shiva, nos élèves, pour faire des frais durs de venir étudier, ils sont fatigués, c'est fois 100. Si on fait 120 000 fois 100, ça nous fait 12 millions. C'est ça, hein? 12 millions.
De quoi? Ici, dans le monde? Ouais, 12, 13.
Une minute de Torah. Si c'est Shabbat, c'est fois 1000, ça nous fait 12 milliards. S'il y avait un shiur où il y avait 20 personnes qui venaient et il n'y en a que 5 qui sont venus, ben il prend le mérite des autres en plus, ça fait x 4. Donc ça nous fait déjà 48 milliards, ça va très vite. Pourquoi? Et pourquoi le peuple d'Israël est-il tellement protégé? Le critère numéro 1 de protection du peuple d'Israël dans les guerres et contre les ennemis d'Israël qui sont toujours là. Il faut comprendre que nous vivons, c'est extraordinaire. Hein. Je crois qu'il n'y a aucun peuple au monde qui vit une chose pareille. Ça fait 70 ans que cet État existe, ça fait 70 ans qu'on est à la veille d'une guerre. Sans ça, c'est la guerre vraiment, et c'est la veille d'une guerre. On est toujours en veille de guerre. Toujours en veille. Il n'y a aucun pays au monde où c'est comme ça. Et avant, c'était comme ça aussi. Ça veut dire qu'on était en veille de chaque génération. Quelqu'un savait pour nous anéantir. On est en veille d'anéantissement. D'accord? Et miraculeusement, on survit et tous disparaissent. C'est écrit dans nos textes. Ça provient principalement du mérite d'étude de la Torah. La question, pourquoi? Ben, c'est très simple. La Torah, c'est la pensée d'Hachem. Et quand notre esprit va rentrer, va commencer à essayer de comprendre la pensée d'Hachem, alors il est complètement concentré là-dedans, il s'unit avec la pensée d'Hachem. Donc il devient quelque part un avec Hachem. Hachem, c'est la sainteté. Hachem, c'est la superpuissance. Hachem, c'est l'infini. T'amènes de l'infini dans le monde du fini. Il est écrit que si un seul moment sur Terre, il n'y avait pas au moins quelqu'un, un juif qui étudie la Torah quelque part dans le monde, l'univers disparaît sur place. Parce que l'univers a besoin d'être nourri de la force infinie. On sait bien qu'il n'y a rien qui est statique. Un temps, on croyait qu'une pierre, c'est statique. Alors, on a pris le microscope, on a vu que non. C'est plein d'atomes. Dans les atomes, des électrons qui tournent à toute vitesse, etc. Il y a une énergie, d'accord? Aujourd'hui, prendre l'uranium enrichi, tu prends une molécule, tu l'éclates, c'est fini, tu fais Hiroshima. Donc il y a une puissance terrible dans chaque petit atome de rien du tout. D'où vient cette énergie? Elle provient de la source d'énergie Hachem. Son nom Yud Kevavke, qui était et sera, d'accord? C'est l'être par excellence. Comment cette énergie, elle vient dans la matière? Elle vient par l'étude de la Torah principalement, qui fait que nous nous unifions avec la pensée divine, et dès lors, elle a place dans ce monde-là. S'il y a de l'infini dans ce monde, s'il y a de la divinité dans ce monde peut subsister. Vu que nous sommes les agents qui amenons cela sur Terre, alors quand il y a un grand flux, le Nefesh Haraim, l'élève du Gaon de Vilna, il a écrit un bouquin qui a été traduit en français, dur d'accès en français, un peu plus facile à dire en hébreu, s'appelle Nefesh Haraim, l'âme de la vie. Là-bas, au début de ce livre, au chapitre 5, il dit que Dieu a appelé, quand il a créé l'homme, il lui a insufflé Nefesh Chaya, une âme vivante. Alors, Nefesh Chaya amène les écrits de Kabbalah, de la mystique juive, et dire en fait, nous sommes l'homme, il est l'âme de tous les mondes existants, et des mondes supérieurs, des mondes spirituels, et des mondes inférieurs aussi, qu'on voit pas, les mondes des démons, les choses pareilles, d'accord, il y a des mondes, toute la réalité. Nous sommes l'âme de ces mondes. Si le peuple d'Israël, son âme va être brillante, va être sainte, va amener un grand flux de divinité sur Terre, alors on donne vie à tous ces mondes. Et sinon, c'est exactement le contraire. On est le robinet. on est le robinet. C'est pour ça que lorsque le robinet est fermé, ça va, on n'a même pas assez, Dieu nous secoue. Hélas, avec des décrets terribles, parce qu'il faut qu'on se réveille. Et si on ne se réveille pas, alors la souffrance peut faire le même travail que l'étude de Torah. C'est ou Torah ou souffrance. Alors je vais l'expliquer maintenant plus, de façon plus rationnelle, bien qu'on est complètement dans l'irrationnel. Rationnellement, pourquoi l'étude de Torah? Parce que c'est le message de Dieu. C'est la pensée divine. Donc quand mon être va être, et plus on étudie avec concentration, plus c'est profond, plus je suis complètement pris là-dedans, plus je m'unis avec la divinité et j'amène à cela un flux de lumière divine dans le monde, pour moi-même et pour toute l'humanité. C'est aussi que c'est quelqu'un qui fait des péchés graves, d'accord? Alors il nous écrit des fois, qu'est-ce qu'il doit faire comme tikkun, comme réparation? La première grande réparation, étude de Torah. C'est plus grand que tout. C'est écrit que Rabbeinu Ari, l'auteur de toute la Kabbalah, il donne des séries de jeûnes à faire pour certains péchés qui ont été faits. Quelqu'un qui a fait Zeral Batala, la semence involontaire, c'est 84 jeûnes de suite. Celui qui était avec une non-juive, 216 jeûnes de suite. Celui qui était avec une femme Nida, 82 jeûnes de suite. Celui qui s'est mis en colère, 151 jeûnes de suite, etc.
La colère, 151.
151. Valeur numérique du mot casse, valeur numérique du mot colère. Et il écrit que celui qui étudie la Torah, mais pas 2 heures par jour, 10 heures par jour, d'accord, 8 heures par jour, comme vous, bien comme il faut, c'est pas besoin de aucun tikkun. Besoin de aucun tikkun. J'avais un élève qui était venu une fois à un séminaire à l'âge de 18-19 ans, mais avec sa boucle d'oreille, d'accord, et avec sa copine Goya, tout ça, un beau Marocain de Montréal. Et il a fait tchouva aujourd'hui, c'est un roche kollel, Baruch Hashem. Il a fait une tchouva complète et il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire des tikkunim? Il est allé voir Rav Ovadia Yosef. Lui, il lui a dit, t'étudies la Torah toute la journée, il a fait une bonne table comme ça, en souriant, c'est bon, besoin d'aucun tikkun.
Alors qu'il... Pendant combien de temps?
Je crois un certain temps. Pour vous dire que l'étude de Torah, c'est quelque chose de mieux que tout, ça répare tout. D'accord? C'est comme quand on veut cachériser un ustensile, alors le meilleur moyen de cachériser, c'est au feu. D'accord, tu prends un karcher et tout ça jusqu'à ce qu'il rougeoie. D'accord. Or la Torah est comparée au feu. Car ainsi kikod varai kaesh neum hashem. Car ainsi ma parole comme le feu, discours de Dieu. C'est du feu. Tu étudies la Torah comme ça avec feu, tu enthousiasme parce que quand t'es comme ça et c'est de la blague, d'accord. Et tu dis comme ça très fort et tac et tu rentres dedans, t'es concentré, ça répare tout. Et si tu kiffes en plus en étudiant, t'as gagné le gros lot. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut notre cœur. Et le meilleur moyen d'aimer Hachem, c'est lorsque tu aimes sa Torah. C'est clair. Comment faire? Des fois, on n'a pas envie d'étudier. C'est super casse-pieds. On n'arrive pas. Il faut... Le Rav Benson, il a dit, vous croyez que c'est facile d'étudier? Il a dit, c'est comme prendre une pioche et taper dans du béton. Tar, tar, tar. Pas facile. Mais au bout d'un moment, on perd sa glace. Au bout d'un moment, tac, ça s'ouvre. Je vais expliquer un peu plus profondément pourquoi. Dans le monde, Dieu a créé le bien et le mal. Le mal, on les appelle les écorces. Elles sont le mal est autour de la lumière divine. Le prophète, quand il voit Dieu, il a une vision de Dieu, le trône de gloire, alors il dit, je vois Esh Miklakacha, je vois un feu dévorant, Anan Gadol, un grand nuage, Roar Sahara, une tempête, une lumière, et dedans, je vois le trône de gloire. Lui est à l'extérieur, il voit des couches. Première couche, le feu dévorant. Après, le nuage. Après, la tempête. Après, la lumière. Et dedans, le trône de gloire. La lumière, c'est le rêve rave. C'est entre le mal et le bien. C'est les neshamot juifs qui sont à mi-chemin, qui sont un rêve rave. On a déjà parlé, on en reparlera bien d'ailleurs une autre fois. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, en périphérie, tu as le mal, et à l'intérieur, tu as la sainteté. Quand tu vas étudier la Torah, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas à l'extérieur, donc tu touches les écorces. C'est dur, ça fait mal, on comprend pas, rien. Par le fait que tu te casses la tête pour comprendre, tu fais la Gemara une fois, deux fois, trois, tu comprends pas, quatre fois, cinq fois, six fois, ça casse, cet effort-là que tu fais, il casse l'écorce. À ce moment-là, la lumière divine qu'il y a dedans, le secret, ce que tu n'as pas compris, apparaît, et tu as une jouissance d'un moment qui est très grande. Plus l'écorce, elle était grande, plus la lumière qu'il y a dedans, elle est grande. Si tu as une petite lumière, tu as une petite écorce. Quand tu as une grosse lumière, tu as une grande écorce. Il faut se casser la tête. Et ça, c'est la grande jouissance qui fait que tout à coup, tu arrives à casser, et cette lumière vient. Au bout d'un moment, ton âme, elle sent cela. Il n'y a aucune jouissance sur Terre qui équivaut à cette jouissance, parce que c'est la jouissance de la Neshama. La Neshama, c'est infini. Le corps, c'est fini. T'as une jouissance, vous remarquerez que toutes les jouissances qu'il y a corporelles, elles sont courtes. Tu manges. Allez, il y a des vins, hein. La bouteille à 10 000 euros. Il y en a. D'accord? Donc la gorgée, c'est 500 euros. D'accord? C'est dommage de la boire glou 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 comme ça, la bouteille. Ah bah, c'est 3 000 euros en 2 secondes. Alors tu prends une gorgée. À gauche, à droite, devant, derrière. À gauche, à droite, devant, derrière. Combien de temps? Au bout de 30 secondes, c'est de la salive, ça devient dégueulasse. D'accord? T'avales. Allez. 20 secondes. De profit. Et c'est tellement dommage. Si Hachem avait voulu qu'on ait un peu plus de profit, il aurait fait que même dans l'œsophage, on ait papilles, des papilles gustatives dans l'œsophage jusqu'à l'estomac, comme ça au moins quand ça descend, tu jouis encore. T'as que 6 cm, pas plus. C'est tout bête, c'est dommage. Avec les femmes, c'est encore plus court. D'accord? Et c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a encore comme kiff? Les fumeurs. De tout, d'accord. Au début, c'est kiffant, après, c'est plus kiffant, que je sache. Alors que l'infini, c'est infini. Et ça, c'est le petit que tu reçois dans la masée, dans ce monde-ci. Le monde à venir, infini. Infini. On n'a pas idée de qu'est-ce que c'est. C'est écrit que le Olam Haba, aucun prophète n'a pu voir ce que c'est. Tellement c'est haut. Ni ange, rien du tout. C'est une lumière qui... C'est Hachem. C'est Hachem. Et quand tu lis la Torah, tu fais un avec Hachem. Alors, on croit que ça va aller facilement. C'est dur. C'est dur. Il n'y a pas de chose qui ait une valeur spirituelle qu'on peut acquérir facilement. Ça n'existe pas. La Gemara dans Megillah dit, Yagata Matsatata Amin, t'as peiné et t'as trouvé, t'as arrivé à un résultat spirituel, tu peux croire que t'as trouvé. Parce que t'as peiné. T'as pas peiné et t'as trouvé, ne crois pas que t'es trouvé. T'as fait du surplace. C'est impossible d'arriver un degré spirituel sans effort, sans que c'est dur, c'est cassant, terrible. Racontez le Stipler. Le Rav Chazan, vous connaissez tous ici les Shiva, son père était très proche du Stipler. Le Stipler, c'est le père de Rav Chaim Kanevski. C'était un homme kadosh, kadosh, kadosh. Et Roi Hakodesh, il voyait tout. Il était du feu. Et un mot qu'il disait, ça se réalisait. Phénoménal. Un jour, le père de Rav Chazan va voir le Stapler et lui dit « Tu ne me prends pas pour un menteur. »« Ras shalom, kvod harav. » »« Non. »« Tu ne me prends vraiment pas pour un menteur. »« Ras shalom, kvod harav. » »« Pourquoi ?»« Ras shalom. » Alors écoute-moi bien. Chaque jour le matin, quand je m'assieds pour étudier, entre 20 minutes, 40 minutes, j'ai des souffrances terribles. C'est insupportable. J'ai envie de partir. Très, très, très dur. Et à la fin, je rentre, ça commence à devenir doux et bon. Même le Stipler, qui est un homme kadosh, 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 tout Torah, son fils est le Rav Shlomo a dit, si un homme sur Terre qui ne va pas en enfer dans nos générations, c'est Rav Chaim Kanevski, d'accord? Kadosh. Néanmoins, il vient étudier, c'est dur, c'est dur. Alors nous, bien sûr que c'est dur. Il y a 40 000 bonnes raisons que Sarah va envoyer pour nous empêcher d'étudier. Soit t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, t'as mal à la gorge, t'as mal au truc, t'as ta copine qui veut plus te parler, qu'est-ce que j'en sais, n'importe quoi. Et ça, c'est des trucs non. Après, tu viens étudier. Et tu comprends pas. Et le Rav, il va pas, ça marche pas. Et ta Ravruta est partie. Et tu tombes avec ta Ravruta. 40 000 bonnes raisons. Étudier, pépère, oublier, ça n'existe pas. C'est dur. Et c'est comme ça que la Torah s'étudie. En plus, je vais rajouter quelque chose qui peut être plus compréhensible. Dans tous les États au monde, les chefs d'État nomment quelques personnes qui vont donner les directions de pensée de l'État. Si il n'y a pas à la tête de l'État une force pensante, ça démotive complètement les sujets, c'est-à-dire les citoyens de l'État. D'accord ? Ils n'ont pas de... Alors aujourd'hui, ça devient moins à la mode parce que c'est fini l'époque des nationalistes. Mais quand il y a encore des pays, ou dans les pays qui sont nationalistes, d'accord, il y a une tête pensante, plusieurs personnes, qui vont donner une réalité identitaire au peuple. Qui sommes-nous? Vers quoi on va? Quel est notre but? Sinon, il n'y a rien qui se passe. Tu vas dire aux gens, allez à l'armée. Il faut aller à l'armée. On a besoin de gens à l'armée. Bosser maintenant pour le pays, on s'en fout du pays. D'accord? Il faut qu'il y ait Si on parle d'un pays, à l'époque où il y avait encore des nationalismes, des pays qui vantent leur nation, d'accord ? Aujourd'hui, ça commence à se perdre dans le monde occidental. En Europe, on va dire. En Amérique, ils ont encore ça. Donc on a besoin, dans le peuple d'Israël aussi, d'une minorité pensante qui va donner la direction du pourquoi le peuple d'Israël existe. La majorité des Juifs sont fiers d'être Juifs. Si tu leur dis « t'es un goy », il veut te tuer. Bien qu'il se comporte comme un goy. Il fait « il mange pas à Kippour, il mange pas de porc, mais à part ça, tout est permis. » D'accord ? Pourquoi t'es mon fier d'être Juif ? Il dit « ok, mais c'est quoi Juif ? C'est quoi Juif ? Quel est notre dénominateur commun ? C'est clair, c'est la Torah. Sans ça, il n'y a plus de judaïsme. Si l'arrière-grand-père de ce type-là, il pratiquait pas, lui, aujourd'hui, il est goy. Goy, vraiment terminé, assimilé, d'accord ? Fils de Christine. Il n'y a pas de juif qui ait un arrière-grand-père qui n'était pas pratiquant. Parce que s'il n'y a pas la Torah, il n'y a plus de juif. C'est ça notre définition. Tu n'as pas d'autre définition du juif. Ils ont essayé en Israël ici de faire une nouvelle sorte de personne, l'israélien. L'histoire commence en 48. Avant, Wallo, ça n'existe pas. D'accord ? Ça s'appelle, il y avait un peuple d'exil avec des sortes de trucs bizarres. Nous, on a créé une nouvelle génération maintenant. Mais ça tient pas le coup, ça tient pas le coup. C'est fini. Aujourd'hui, le nationalisme israélien, il est en perdition totale. Et les gens se réveillent. Parallèlement, ils comprennent. Alors, pourquoi j'existe? Qui je suis? Bon, Franco, tu as vu un peu comment, qu'est-ce qui s'est passé quand l'État d'Israël? Pourquoi c'est arrivé comme cela? Ok, je crois que ça suffit pour réponse à ces gens-là. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.